Shabbat, qui est la paracha de Yaakov. Et puis je voudrais dire que la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'aborder toutes les questions qui m'ont été posées, puisqu'il y avait une intervention pendant ce coin, d'un touriste d'ailleurs, qui nous a pris beaucoup de temps. Il n'est pas là, je suppose. Il a pris une assurance touriste. Alors, je voudrais savoir si celui qui m'a posé la semaine dernière la question, parce que quand vous changez de place, je ne me rappelle plus qui est qui, sur un verset, qui est le verset 2 du chapitre 4, dans la paracha la semaine dernière, où il y avait une répétition apparente, je vais vous lire d'ailleurs le sujet. Si cette personne est là, je réponds. C'est toi ? C'était quel verset ? C'est une colle. Hein. Mais oui, mais je te demande le verset. Non, non, le verset, pas le numéro. Si on était en cours de poétique, je te dirais quel verset. Voilà, je te dis le verset. L'autre aussi, il faut en aller d'abord, c'est ça ? C'était toi ? Alors, t'étais assis là ? Ici ? Alors, c'était quelqu'un d'autre. Oui. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous enseigne, que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. C'est un principe qui est encore une autre fois dans le livre de Devarim, c'est que le nombre, retenez bien le pshat, le nombre des mitzvot de la Torah ne va pas être changé. Nous savons par tradition, c'est une Gemara qui est dans la Maseret Megillah, qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. 248 mitzvot positives, les mitzvot qu'il faut faire, on les appelle en hébreu mitzvot assez. En français, c'est quand on en a assez. Et il y a 365 mitzvot négatives, les interdictions. Il y a un problème qu'on étudie habituellement à ce sujet. Pourquoi dans la Torah en général, et pas seulement par rapport au nombre de mitzvot, des 613 commandements, il y a plus d'interdictions que de commandements positifs. Si vous voulez, je peux vous en parler, mais c'est un sujet pour lui-même. Okay? Et dans tous les cas, ce principe qui nous vient de la Kabbalah est un enseignement du Talmud, est un principe reconnu par tous les décisionnaires. Les décisionnaires sont les haramim, qu'on appelle les poskim, ceux qui ont capacité de décider de la législation de la Torah. Mais il y a controverse, et en particulier entre deux des grands décisionnaires qui sont les deux grands. J'entends pas, parlez plus fort. Non, décisionnaire. Rashi est aussi décisionnaire, mais les grands décisionnaires, c'est Rambam, Maïmonide et Nahmanide. Maïmonide et Nahmanide. Il peut y avoir controverse, non pas sur le nombre des commandements, et il y a des raisons de Kabbalah qui font que c'est ce nombre-là. Un jour, si vous voulez, on prendra ce sujet pour lui-même. Chaque fois, je vous dis un jour, vous oubliez, et les jours passent. Et il faudrait qu'on ajoute un jour pour les sujets spéciaux. Et il peut y avoir controverse si tel verset est un commandement ou une promesse, par le fait que tous les commandements sont donnés au futur. Alors ça, de ça, je veux parler. Pourquoi les commandements sont donnés au futur ? On les entend comme des impératifs, mais ils sont toujours donnés au futur. Même dans les exceptions apparentes, dans ce qu'on croit être une exception, c'est aussi un futur. Ça, j'expliquerai. Et donc, il peut y avoir controverse si tel verset est une bénédiction ou une promesse de bénédiction, ou bien si c'est un commandement. Non, c'est pourquoi nous avons les codes des grands décisionnaires, n'ont pas forcément le même indication, comment dire. Le même code des codes, du code. Mais le nombre des mitzvot de la Torah est de manière irréversible 613. Alors, la parenthèse que je vais ouvrir, c'est ceci. C'est un enseignement important que nous recevons du Rav Kook. La Torah s'adresse simultanément à la collectivité d'Israël et à l'individu. Mais elle s'adresse à la collectivité d'Israël dans un futur de promesses. Je prends un exemple qui me vient toujours à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai étudié ça après la guerre, c'est la raison pour laquelle c'est cet exemple qui me vient. Le commandement, tu ne tueras pas. Vous voyez, l'otirtsar, c'est un futur, tu ne tueras pas. Il n'y a pas altirtsar, ne tue pas. Mais ça veut dire, et lorsque la Torah s'adresse à la collectivité, si tu es Israël, je te promets, voici ce que sera ta carte d'identité, ton profil d'identité. Tu ne tueras pas, c'est une promesse. Si tu es Israël, voilà ce que tu seras. Encore une fois, ce n'est pas un commandement d'être, c'est une promesse. Toi, Israël, je te promets que ton être est ainsi et sera ainsi. Seulement, l'individu, à l'intérieur du groupe, à l'intérieur de la collectivité, à travers la collectivité, entend la promesse donnée à la collectivité comme un ordre à être Israël, à travers telle ou telle conduite. C'est clair ? C'est-à-dire, nous naissons Jacob, et les promesses sont faites à Israël. Donc, la dimension de commandement de la Torah, ça, je la formulerai ainsi, ça s'adresse à Jacob en lui ordonnant de devenir Israël. Mais dès qu'il devient Israël, la promesse s'accomplit. Ça veut dire, la dimension d'obligation, tzav, mitzvah, chova, que l'on entend dans le commandement sous forme d'impératif, c'est l'individu qui entend la voix qui s'est adressée à la collectivité comme promesse, l'individu l'entend comme commandement à être membre de cette collectivité. Vous avez compris l'analyse ? Bon. Mais quoi qu'il en soit, tous les commandements sont dans le nombre de ces 613, qui est un nombre qui a une explication kabbaliste. Il n'y a pas de raison pshat. Pshat, on dirait c'est arbitraire. On a compté le nombre des commandements, on a vu qu'il y en a 613. Donc, il y a des raisons très profondes pour ça, mais c'est un autre sujet. Et alors il peut y avoir donc controverse sur tel ou tel contenu du commandement, mais jamais sur le nom. Et alors, là nous avons plusieurs fois dans la Torah ce verset que je vous lis est dit sous cette forme, interdiction d'ajouter ou de retrancher un commandement. Le problème de la chumra, c'est-à-dire la manière dont on applique une mitzvah, plus ou moins aggravée, avec plus ou moins de précautions, si à la Torah, c'est pas ajouter un commandement au nombre des commandements de la Torah. Mais il y a ici un problème. Il faut bien faire attention que ce qu'on a pris comme chumra ne soit pas considéré comme mitzvah supplémentaire au nombre de 613. C'est clair ? Vous avez compris ? Chaque chose que je vous ai dite là, c'est un sujet pour lui-même, mais rassemblez tout ça. Et alors la question de Meir, c'est la suivante. Vous n'ajouterez pas à la parole que je vous prescris aujourd'hui et vous n'en amoindrissez pas. Pas plus, pas moins. Mais je crois que nous avons dû étudier ça une fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai encore en mémoire. Mais je vous dis pourquoi c'est important, parce que l'homme ne dispose de Sirta Dishmaya, d'aide à lutter contre le mauvais instinct, que par rapport au commandement que Dieu a donné. Et si, ah oui, on a étudié ça à propos de la question des vœux. Pourquoi la Torah n'aime pas les vœux ? Parce que c'est s'ajouter une obligation par rapport à laquelle on n'a pas de protection vis-à-vis du Yetzer Hara. Et c'est pourquoi c'est très périlleux un vœu. Tant qu'on ne l'a pas accompli, on est appelé Rachar. Quand on l'a accompli, on est appelé Tzadik. Mais tant qu'on ne l'a pas accompli, il y a une sorte de culpabilité innocente, si j'ose dire ça comme ça. On n'a pas fait de faute, mais on est coupable de ne pas avoir accompli le vœu. On est en situation de culpabilité, on est chayav, soumis à obligation, ça veut dire coupable de ne pas l'avoir encore accompli. Et il y a une espèce de scrupule de la conscience juive en particulier, ou de toute conscience qui est soumise à une loi, qui risque de confondre cette responsabilité vis-à-vis de la loi avec une culpabilité. Très souvent on se croit coupable alors qu'on n'est que responsable. Chayav, en hébreu, ça veut dire ou responsable ou coupable. Par contre, je crois que j'ai suffisamment expliqué pourquoi. D'où vient cette ambiguïté ? On est responsable d'avoir à accomplir l'obligation et on est, par le fait même, coupable tant qu'on ne l'a pas encore accompli, bien qu'on n'ait jamais fait de faute, bien qu'on n'ait pas fait de faute dans le comportement. Ça, c'est le sens du mot chayav. En hébreu classique, il y a deux mots. Il y a chav et chayav. Il y a une discussion à propos d'une Mishnah, Mishnah du début de la Masechet Bava Kamma, où la Mishnah dit « Hav Amazik », celui qui a causé un dommage est, comptable de, comment on dit en français, ça m'échappe en français, et passible de. La Gemara demande pourquoi elle a dit « Hav » au lieu de dire « Chaya ». Elle répond parce qu'il parle hébreu. Ça veut dire, dans l'hébreu biblique, il y a une différence entre « Hav » soumis à responsabilité, et Hayav, coupable. Mais dans l'hébreu rabbinique usagé, étant donné que c'est la mentalité du Talmud de Babel et pas de Judée, alors on a gardé le mot de Haya pour les deux notions. Mais ça recouvre un problème psychologique très important. Je reviens surtout pour les pédagogues, ou les mères de famille, plus que les pères de famille, ceux qui s'occupent des enfants déjà en bas âge, de faire croire à un enfant qu'il est coupable, alors qu'il n'est que responsable, ça fait des dégâts psychologiques considérables. Vous avez compris à quoi je fais allusion ? Et beaucoup d'enfants ont des traumatismes parce qu'ils ont cru qu'une responsabilité qu'ils avaient, légitime, était en réalité une culpabilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre enfance, vous savez que c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui n'a pas oublié comment il était quand il était enfant. Alors il peut s'occuper d'enfants. Mais les jeunes parents en général vont oublier comment ils étaient quand ils étaient enfants. Alors c'est des torsionnés. Vous avez compris ça, je veux dire, vous me regardez d'un air inquiet. Vous vous reconnaissez. Comme on disait, je ne sais plus quel acteur français, bourreau d'enfants. Qui c'est qui disait ça?
Fernand
Renaud. Et en général, c'est connu des psychologues. Les jeunes parents se vengent sur leurs enfants inconsciemment d'exactement des mêmes sévices qu'ils ont eus de leurs parents quand ils étaient gosses. Alors c'est une espèce de maladie héréditaire, être jeune parent. Bon, dans les familles où il y a les grands-parents, ça s'arrange, parce que les grands-parents sont là pour remettre les choses au point. Mais c'est ça le drame des familles où il n'y a pas les grands-parents. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Si vous voulez avoir des enfants heureux, adoptez des grands-parents. Non, je ne plaisante pas. En tout cas, pour revenir, c'est la différence entre une civilisation où il y a des vieux, une civilisation où il y a des vieillards. Une civilisation sans vieillards, il n'y a que des vieux, c'est une civilisation perdue. Bon, c'est un autre sujet, je ne sais pas pourquoi je suis rentré là-dedans. Mais enfin, je referme la parenthèse. Et, alors, de quoi je parlais ? Al-Echad et Chayab. Alors, faites bien attention à cela. C'est un principe très important que la Torah nous donne. Si on s'ajoute une mitzvah, et c'est en particulier le cas du vœu, eh bien, on se met en péril, parce que le Yetzer Hara va contre-attaquer, et on n'a pas de force contre lui, parce qu'on a Siata d'Ishmaïa que par rapport aux mitzvot que la Torah a donné. Vous voyez à quel point c'est délicat. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah, en introduisant la législation des vœux, dit « Adam qui afflit l'indor neder » lorsqu'un homme fera cette chose merveilleuse, pelé, de faire un vœu. C'est surhumain, enfin c'est, comment on dit en français, c'est une performance. Vous savez, il y a des gens qui sont attirés par les performances. Comme il y a des gens qui deviennent athlètes, et par exemple, des cyclistes, tout ce que je voudrais. Et puis il y a des gens qui font des performances dans le Shulchan Aruch. Mais s'ajouter des humrot, genre vœux, difficiles, c'est périlleux. Et encore une fois, je rappelle le principe du Talmud, tant que le vœu n'est pas accompli, on est en danger, on est appelé rachat. C'est un principe qui va loin. Il y a dans la Gemara, dans la même souille, il y a le fait qu'au jugement dernier, on nous demandera compte des jouissances terrestres qu'on n'a pas prises et qui étaient permises. Ce sera considéré comme une faute. C'est très délicat ce que je vous ai dit là. Entendez exactement comme je l'ai dit. Ne vous inventez pas des jouissances permises. Mais demandez au rabbin qu'est-ce qui est permis. En général, les rabbins interdisent. Alors, je vous préviens à l'avance. Alors, en tout cas, pour revenir, c'est pour ça qu'il faut étudier. Pour revenir au sujet, j'ai lu la première partie du verset, je la relis. Lo tosifun ala davar hashanachim et tzave etrem velo tirreu mimenu nishmo et mizvot hashem elokechem asher anochim et tzave etrem. Afin de préserver les commandements de Hashem votre Dieu que je vous prescris à vous. Et alors la question est qu'il y a une répétition. Pourquoi dans le verset il faut dire deux fois asher anochim et tzave etrem que moi je vous prescris? Voilà, ça, vous avez compris la question? Bon, je vous donne une réponse succincte, mais je tiendrai à ce que ce soit clair, sinon on m'interroge, on va le temps qu'il faut. C'est que la Torah que nous avons, c'est la Torah que Moshé nous a transmise. Ça s'appelle d'ailleurs Torah Moshé Missinaï. J'étais gêné parce qu'en français on dit parole d'évangile, mais ça a le même sens, mais parole de Torah. Et alors, il y a une Gemara qui explique cette répétition. En citant le cas de la bénédiction des Kohanim. La Torah nous a donné la formule de la bénédiction des Kohanim. Et la Torah cite, la Gemara cite le cas d'un Kohen qui ferait le raisonnement suivant. Vous avez compris de quoi il s'agit, la Bechat Kohanim, okay, la bénédiction des Kohanim. Qui ferait le raisonnement suivant. Il y a d'autre part d'autres bénédictions dans la Torah. Je pourrais me dire que j'ai le droit de les ajouter, puisque c'est la volonté de Dieu de bénir Israël. Et j'ai d'autres formules dans la Torah, quand par exemple Moïse a fait la bénédiction, c'est dans le Devarim, que Dieu. Rappelez-moi le verset. Oui, le verset m'échappe. Il ne faut jamais parler de mémoire. Mais je vais le retrouver. Yosef, Alechem, Kachem, Elef, Peramim. Ça, c'est la bénédiction que Moïse a ajoutée. Ça veut dire Dieu vous a fait nombreux comme les étoiles du ciel, que Dieu vous ajoute le plus grand nombre, ça c'est sa bénédiction, et qu'il vous ajoute en plus, ça c'est la mienne. Vous avez compris l'idée, okay? Attendez, si vous voulez, je peux retrouver le verset exact, mais ça nous prendrait trop de temps parce que je ne lis pas. Ça veut dire, si j'ai une bracha en tête que je me crois autorisé à ajouter à ce que la Torah a dit, en faisant le raisonnement, je sais que c'est la volonté de Dieu. Alors c'est pourquoi Moïse précise, cela et pas plus, cela et pas moins. Il ne s'agit pas, bien sûr, de choses que je m'inventerai, mais de prescriptions supplémentaires que je me croirais autorisées parce que la Torah me fait comprendre que ce serait la volonté de Dieu. Vous voyez pourquoi la question est importante, okay? D'ailleurs, chaque fois qu'il y a une précision donnée dans la Torah, sous la méthode du Talmud, il faut toujours se demander à quel cas de figure ça désigne et de le chercher en bonne part, les kavzechut. C'est-à-dire, je pourrais faire un raisonnement, non pas d'ajouter à la Torah pour violer la Torah, mais d'afka d'ajouter à la Torah pour mieux appliquer la Torah. C'est ça qui est interdit. Vous avez compris le problème? Bon. C'est l'expression Asher Anochi Metzavé Etre. Cela et pas plus, cela et pas moins. Voilà pour cette question. Et le principe qu'on a, auquel on fait allusion à ce sujet, c'est Kolamosif Gorea. Tout celui qui ajoute diminue, retranche. C'est pas très logique. Qu'est-ce que ça veut dire que quand j'ajoute, je retranche? Vous avez compris ma question? Qui pourrait expliquer ça? Que ça me donne le temps de dire une bracha. Baruch atah Hashem, je ne crois pas. Donnez-moi le raisonnement qui fait comprendre ça. Kolamosif Gorea. Tout celui qui ajoute retranche. C'est pas logique de dire ça. Quel raisonnement réintégrerait la cohérence?
Le commandement peut contradire et limiter un autre commandement qui était donné avant. C'est-à-dire, on peut ajouter un commandement.
Et par là,
on ne se rend pas compte qu'on limite déjà un autre qui était avant et contredit ce.
Vous avez entendu? C'est très bien. Je répète un peu autrement, c'est très bien, cette explication existe. C'est en m'ajoutant un commandement, je risque par là même de me mettre dans le cas d'annuler un commandement de la Torah. Et donc en m'ajoutant un commandement, en été j'en retranche un qui lui est authentique. C'est Avera Ava Alede Mitzvah. C'est Avera chez Mitzvah Goreret. Une transgression qu'une Mitzvah entraîne. Vous avez compris, c'est très périlleux. Quand très souvent, pour faire une mitzvah qui m'apparaît comme une mitzvah, je viole un commandement de la Torah. Si j'avais le temps, je vous raconterais, j'ai dans mon expérience pédagogique des situations énormes auxquelles on ne peut pas croire. La réalité dépasse la fiction. À cause de cette bonne volonté de croire qu'en ajoutant, on améliore. Souvent, en ajoutant, on croit bien faire, et au contraire, comme vous avez dit. Mais il y a une autre manière d'expliquer, plus classique. Par le raisonnement, c'est ceci. Si je crois que je suis autorisé à ajouter, ça veut dire que le nombre de mitzvot n'est pas intangible. Et si le nombre de mitzvot n'est pas intangible, alors peut-être je suis autorisé à retrancher. C'est-à-dire celui qui ajoute sera mené à retrancher. Là, vous avez donné un éclairage, mais je voulais donner le raisonnement. C'est clair? C'est-à-dire, celui qui fait un coup d'épingle dans le contrat, si j'ose dire, d'un côté, s'est habitué à faire un coup d'épingle, aussi de l'autre côté. C'est l'atmosphère de l'explication de Maïmonide sur la notion de faute. Comment on dit une faute en hébreu? Avera, c'est une transgression. Oui. Avera, c'est une transgression. C'est une autre catégorie. Une faute, c'est het. Quelle est la racine? Le mot signifie quoi en hébreu? pas plus forte. Hein? Non, bienheureux, l'ahati. L'arto, ça veut dire dévier, ça veut dire rater la cible. C'est exactement un raté. C'est, l'idée, c'est une flèche qu'on a tirée, au lieu d'arriver sur la cible, elle arrive d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est sa hête. C'est un raté du métier d'homme. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise volonté de transgresser. Chet, c'est, d'une façon générale, le chet, c'est bishgaga. J'ai pas voulu fauter, ça c'est pécha, qu'on traduit par péché, mais j'ai raté. Imaginez que nous avons un métier d'homme, et il peut y avoir des ratés du métier d'homme, comme il y a des ratés dans n'importe quel métier, des fautes de métier. Ça ne veut pas dire que c'est intentionnel, que c'est avon. Vous avez compris ? C'est pas que la volonté est mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise volonté. Il y a eu un raté. Bon. Et alors, le Maïmonide, à travers cela, explique. Fauter, ça veut dire dévier, soit à droite, soit à gauche. Qu'est-ce que c'est un tzadik pour Maïmonide ? C'est le derech haemtzai. Je ne traduis pas, parce que ça me ferait rentrer dans Aristote, et je ne veux pas rentrer dans Aristote ce soir. Mais, on est rachat, soit en faisant plus, soit en faisant moins. C'est-à-dire, Maïmonide est contre ce qu'on appellerait l'extrémisme, être à l'extrémité. Alors, c'est pourquoi son explication de la tshuva est très importante. Parce que c'est un problème quotidien, pédagogiquement. Il dit voilà, quelqu'un qui a dévié, en faute, disons à gauche, pourquoi il n'était pas au milieu ? C'est parce qu'il n'est pas capable d'être au milieu. Donc, ce sera très difficile de le remettre au milieu. Il faut le retourner en face, de l'autre côté. Et puis par un jeu de pendule pédagogiquement très lent, finalement il arrivera au milieu. Mais il faut savoir qu'il est rachat à gauche et on lui rend rachat à droite en vue de le guérir pour le mettre au milieu. Mais que l'extrémisme opposé à l'extrémisme de la faute, c'est encore une faute. Mais c'est une thérapeutique. C'est une explication de Maïmonide dans les chemins d'Aprakim qui est très importante. Nous suivons ça d'ailleurs par expérience. Et alors, imaginez, je ne sais pas moi, un métal qui s'est tordu. Et alors, pour le remettre droit, il faut le tordre de l'autre côté avant de pouvoir le remettre droit. Vous avez compris l'idée de Maïmonide. Bon, alors c'est cette idée que avoir fauté, c'est avoir dévié de la voie droite. Ben c'est bien. Alors ça, c'est bien clair pour ce verset, que la Mossive Goréa. Et maintenant, on m'a posé aussi une autre question, mais je ne sais pas si la personne qui m'a posé se trouve là. C'est pourquoi il y a répétition des 10 commandements dans Vaitranan, c'est la page de la semaine dernière. Et que ce n'est pas exactement. C'est vous. Bon. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais alors, je vais essayer de répondre succinctement. C'est que les 10. J'ai répondu la dernière fois. Ah, j'ai pas eu assez de temps. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui manque ?
Non. Les commandements ne sont pas conformes exactement.
Dans la forme, oui. Mais ça, j'ai répondu à ça ou pas ? Bon, je rappelle, vous me direz. Les premiers 10 commandements, le premier texte qui se trouve dans Pacha de Yitro du livre de Shmuel, ont été révélés à la génération de la sortie d'Égypte. Et par conséquent, la motivation, en particulier du Shabbat, et pas seulement du Shabbat, qui est donné, se réfère à l'expérience qu'ils ont eue. C'était leur expérience, la sortie d'Égypte. Et donc, elle n'est pas à cause de la sortie d'Égypte, mais à cause de la création du monde. Tandis que deuxième texte des 10 commandements est donné à la génération des fils qui va entrer en Eretz Israël et qui, eux, n'ont pas eu l'expérience de l'événement de la sortie d'Égypte. Et c'est pourquoi la motivation sera la sortie d'Égypte. C'est un exemple des différences. Le principe est que, quand c'est formulé pour la génération qui rentre dans l'histoire d'Israël, la formulation n'est pas exactement la même que quand c'est formulé pour la génération qui a l'expérience de la sortie d'Égypte. Et Ibn Ezra donne un enseignement très important. Si vous vérifiez, vous verrez que les ta'amim, l'accentuation, est exactement la même. Et Ibn Ezra en profite pour enseigner un enseignement très important, que l'essentiel de la capacité de prophétie, c'est dans la cantillation de la parole plus que dans la parole. Que l'essentiel de la névoie est dans les ta'amim plus que dans les mots. ça fera plaisir aux musiciens. C'est-à-dire il y a une chokma véhiculée par les taramim qui est plus profonde que la chokma qui est véhiculée par les lettres et les voyelles. Il y a d'ailleurs quatre niveaux. Il y a les taramim, il y a les voyelles, les nekudot, et les voyelles, hein, les otiot, les lettres, il y a les taramim, l'accentuation, il y a les tagim. Quand vous lisez dans le Sefer Torah, vous voyez qu'il y a certaines lettres où il y a des petites couronnes dessus. C'est encore plus haut que le chant. Donc. Et alors, Ibn Ezra a noté cela. Il y a quand même identité des taramim, mais les mots, effectivement, sont différents, mais pas pour rien. Bien, et bien, voilà, donc pour ces deux questions, je ne pense pas avoir oublié les questions de la dernière fois. En tout cas, ceux qui sont là, si vous en rappelez, vous me dites. Alors, on aborde la paracha de notre semaine, c'est la paracha de Haïkel. Je veux simplement, très rapidement, lire les premiers versets, comme d'habitude, mais poser un des problèmes que les commentateurs ont posé. J'en ai un petit peu parlé pour ceux qui étaient à la Shabbat, mais ça ne fera pas double emploi, je redirai d'une autre manière. Vous savez que Shabbat, on a eu une bar mitzvah à Yaïr, le fils de Rabben Ezra. Et qui était là? Toi, à part toi. Bon, vous n'étiez pas là. Eh bien, vous avez raté un Shabbat bar mitzvah. Alors, prenez les derniers versets de la paracha de Vaitranan et les premiers de la paracha de Haïkel. Il y a dans la fin de la paracha de Vaitranan, on va voir, prenez à partir du verset 6 du chapitre 7. Il y a une des motivations que la Torah donne sur ce que j'appellerai l'élection d'Israël. Vous savez qu'il y a un problème très important qui est comment comprendre que c'est Israël qui a été choisi par Dieu. Et il y a différents plans de l'élection, en particulier choisi pour recevoir la Torah. Mais c'est parce qu'il a été choisi comme peuple qu'il a reçu la Torah. Et il y a différentes réponses qui sont dans le texte de la Torah. Premièrement, c'est parce qu'il s'agit des descendants des patriarches. Et puis deuxièmement, c'est parce qu'Israël a été, à la manière d'Abraham, le peuple qui a eu l'expérience de la fin d'exil. Et c'est cette expérience qu'il instaure comme peuple guide des autres nations. Je vous parle souvent, ces dernières années, de cette notion-là. La foi d'Israël, c'est que l'exil peut prendre fin. L'indice est toujours l'indice principal, c'est dans la forme des prières. L'indice est dans la prière. Devant qui nous nous mettons pour prier? La tradition n'a pas choisi une définition d'ordre théologique métaphysique. Par exemple, on pourrait supposer que la tradition fixe comme formule de la prière, devant qui je me trouve pour prier, le créateur du monde. C'est vrai que Dieu est le créateur du monde. Mais ce n'est pas à ce titre que je lui adresse ma prière. C'est un tout autre titre que nous allons voir. Et premièrement, parce que si c'est lui qui a fait le monde, il a disposé dans son monde les lois du fonctionnement du monde selon sa volonté. Je n'ai pas à lui demander de changer sa volonté. Or, qu'est-ce que je fais dans la prière? Je lui demande de changer sa volonté. Vous avez compris ce que je viens de dire là, Ben? La formule d'introduction à toute prière, c'est « Yehi Ratzon Melefanecha ». Que ce soit une volonté devant toi. Ça veut dire, je connais l'état de ta volonté jusqu'à maintenant, et je vais le dire de manière limite, pour que vous entendiez bien la difficulté de la notion de prière, en fait, ça va de soi, ça va pas tellement de soi. Je connais l'état de ta volonté jusqu'à maintenant, comment tu gères ton monde, et ça ne me satisfait pas, change, voilà ce que je te demande. C'est énorme. Je me mets devant Dieu pour lui demander de changer sa volonté. Okay? Donc, il faut qu'il y ait des attendus à la prière. Qu'est-ce qui me donne le droit de prier? C'est encore un autre sujet. Mais devant qui je me mets pour prier? Encore une fois, comme nous allons le voir, dès que je vous citerai comment on prie, pas devant Dieu qui a créé le monde. Ça, je n'ai pas le droit de lui demander de changer sa volonté. Au contraire, les grands tzadikim ont peur de prier. Parce qu'ils ont conscience que ce qu'ils demandent, c'est à Dieu de changer sa manière de gérer le monde. Et peut-être Dieu sait ce qu'il fait. Et peut-être c'est dangereux de prier. Je suis en train de vous donner des cauchemars. Mais c'est pourquoi il y a un enseignement qu'on retrouve surtout dans le Zohar, mais qui est déjà dans la Gemara. Akadosh Baruch Hu mit'ave l'itfilatam shel tzadikim. Dieu désire la prière des justes. Pourquoi ? Parce que la prière des justes ne peut pas ne pas être exaucée. Parce qu'en obéissant aux justes, Dieu s'obéit à lui-même. Il suffit qu'un juste demande pour que ce soit comme si c'était Dieu lui-même qui avait demandé. Or, les justes ont peur de prier. Parce qu'ils sont tellement croyants qu'ils savent que Dieu sait ce qu'il fait. Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? J'ai vu personne prendre des notes. Alors, le Talmud dit, Dieu désire la prière des justes, et c'est pourquoi il les prive de tout pour les obliger à prier. Et quand le juste, acculé à prier parce qu'il est privé de tout, prie, Dieu donne à tous. Vous avez compris ? Et en plus, le juste s'entête, et quand il prie pour demander la pluie, il prend un parapluie pour que la pluie tombe chez les autres et pas chez lui. Et c'est ça, c'est un vrai tzaddique. C'est il prie avec un parapluie. Retenez ça. C'est, vous avez compris le problème. Bon, je referme la parenthèse. En fait, nous prions devant. Qu'est-ce que nous disons ? La dernière phrase que nous disons, nous dire Adonai Espatat Iftar. Avant de commencer ce mon esprit, qu'est-ce qu'on vient de dire ? Baruch Ata Hashem, Gaël Israël. On rappelle la sortie d'Égypte, qui est la preuve qu'on peut sortir d'exil, et on se met devant Dieu pour prier. Devant Dieu défini comment ? Celui qui nous a fait sortir d'exil. Pas comme diraient les théologiens philosophes, celui qui a créé le monde. Oui, c'est très différent comme sensibilité religieuse. Celui qui a créé le monde, vaut mieux ne pas y toucher. Lui seul sait ce qu'il fait. Je vous donne un petit exemple pris dans un tout autre régime. Vous savez que nous avons deux systèmes nerveux. Le système nerveux volontaire et le système nerveux sympathique. C'est comme ça qu'on l'appelle toujours.
Oui.
Alors, le système nerveux volontaire est soumis à ma volonté. Le système nerveux sympathique régit les fonctions vitales de l'organisme et il n'est pas soumis à ma volonté. Ça serait très dangereux qu'il soit soumis à ma volonté. Si j'avais la faculté de commander au foie, à l'intestin, à l'œsophage, mais dans la minute qui suit, je serai à l'hôpital. Hein ? Vous avez compris ? Et alors ?
Il y a d'autres noms pour le système.
Lymphatique.
C'est autonome.
Autonome, bon. Vous voyez l'humour des savants. C'est le système impersonnel d'Afka. C'est le système qui n'est pas soumis à ma volonté, à mon pouvoir. Parce que si j'avais le pouvoir de régir les battements du cœur, il y a longtemps qu'ils se seraient arrêtés. Il suffirait que je pense, j'en ai marre, et ça y est. Il n'y a que des grandes tzadikim, on les appelle les yogis, on peut appeler des tzadikim, des grandes de la vertu qui savent gérer leurs fonctions autonomes, sympathiques. Hein. Pour les autres, c'est dangereux. Vous voyez qu'il y a toute une partie du fonctionnement du monde et de notre monde qui n'est pas du tout soumis à la prière parce qu'on ne sait pas quel dégât on va faire en demandant des choses absurdes. Vous avez compris ? Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est bien pour nous. Et alors il faut être un grand pour oser supposer savoir ce qui est bien pour moi. Que je sache que je ne sais pas, c'est lui qui sait. Vous voyez pourquoi ? C'est les grands prophètes qui nous ont donné le texte de la prière. Imaginez qu'on soit exaucé sur des caprices. J'ai imaginé ces nouvelles de science-fiction, je vous en racontais une. Imaginez que quelqu'un a reçu le pouvoir du prince des Asmodéens, Asmodée, vous savez qui c'est, que ses souhaits soient accomplis. Imagine qu'il se mette de mauvaise humeur vis-à-vis d'un proche, qu'il aille au diable. Et où est-il ? Au diable. Il pourrait détruire le monde, marron. Ben c'est la même chose. Alors, en fait, on ne prie pas devant le Créateur, retenez bien ça. On prie devant celui qui nous a fait sortir d'Égypte, et nous savons que c'est le Créateur. Et c'est ça sa puissance. Parce que d'après les lois de la création, on ne sort pas d'Égypte. D'après les lois de la création, on reste exilé. Si on sort d'Égypte, c'est que Dieu est intervenu pour faire un miracle. C'est à Dieu qui fait des miracles qu'on prie, pas à Dieu qui gère le monde. Vous voyez la différence ? Est-ce que c'est bien clair ? Or, la condition de créature est une condition d'exil. Le fait d'être créé, c'est d'être mis loin du créateur. Et la raison pour laquelle, finalement, c'est un autre sujet, mais je résume beaucoup, l'humanité entière se reconnaît à sa manière, qui est très souvent païenne, mais à sa manière, dans la foi d'Israël, c'est parce que la foi d'Israël témoigne qu'on peut sortir d'exil. Et qu'au fond, toute créature a pour souci profond, plus inconscient, de mettre fin à l'exil de créature. Être sauvé, ça veut dire retrouver le créateur. Ça veut dire briser cette solitude de la créature comme créature, ce qui est un exil. Alors nous sommes le seul peuple qui a la preuve qu'on sort d'exil. Notre histoire consiste en cela. Exil, délivrance. Galut Geula. Il y a un chapitre du Maharal extraordinaire là-dessus. C'est l'expérience d'Israël. Or, ça commence avec Abraham. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit « Je suis celui qui t'ai fait sortir d'Ur-Kasdim » avec les mêmes mots que lorsqu'il s'adresse à Israël « Je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Vous avez compris quelle est la foi d'Israël. Bon, rappelez-moi maintenant pourquoi je vous ai ouvert cette parenthèse.
L'élection.
Quelle ?
Je suis une élection.
Ah oui, alors je reprends mon verset. Quelle ? On est donc, rappelez-moi, le verset 6 du chapitre 7 de Vaïkra. J'avais fermé le livre, alors ça m'a fait échapper du sujet. Vous y êtes ? Vous avez le verset sous les yeux ? Oui. Ki am kadosh ata l'Hashem Elokecha, c'est un des versets qui explique l'élection d'Israël. L'élection d'Israël a pour, dans ce contexte-là, explication, vous avez eu cette expérience, vous deviendrez Mamlechet Kohanim et Kadosh pour l'humanité entière. Vous voyez le raisonnement ? Au pied du Sinaï, qu'est-ce que Dieu dit à Israël ? Je vous ai fait sortir d'Égypte sur les ailes des aigles. Vous vous rappelez de tout ça ? Alors maintenant, vous allez devenir pour moi un peuple de prêtres. Ça veut dire, où est l'élection d'Israël ? C'est, je me rappelle d'un mot de Chouraki, c'est ce balotage, le peuple élu est en balotage, c'est ce balotage entre exil et délivrance. Et c'est ce témoignage qu'Israël doit apporter, c'est ça la foi d'Israël. Kiram kadosh ata Hashem Elokecha, car tu es un peuple saint, mis à part pour Hashem ton Dieu, Becha bachar Hashem Elokecha. C'est en toi, c'est toi que Dieu a choisi, l'Iotlo Leham Segula, pour être le peuple privilégié, Mikola Ramim, de tous les peuples, Asher Alpena Adama, qui vient sur la surface de la terre. Et donc, à partir du moment où ce choix a été fait par Dieu, c'est irréversible. Retenez la question que je vais poser, c'est pourquoi y aurait-il des conditions ? À condition que, si Dieu promet et a décidé, c'est irréversible. Et quelles seraient les conditions ? C'est ce que nous allons lire dans le début de notre paracha. L'accomplissement des mitzvot. Vous voyez quelle est la tension de notions qui va apparaître. D'un côté, le texte nous dit « Je vous ai élu » et il y a des raisons pour ça. C'est irréversible. Tout de suite après, il va nous dire « À condition que... » Vous voyez la tension du problème. C'est clair ? Je continue. L'homme est Rubéchem. Et puis là, il y a une argumentation extraordinaire ici. L'homme est Rubéchem et Kol Ha'amim. Et c'est pas parce que vous êtes nombreux plus que tous les peuples. Ça explique pourquoi nous sommes si peu nombreux. En fait, il y a des raisons existentielles pourquoi nous sommes si peu nombreux. Nous avons été un peuple amoindri systématiquement à travers toute l'histoire. Si on n'avait pas eu le massacre, les pogroms, les assassinats et l'érosion d'identité par l'assimilation à travers notre histoire, nous serions des centaines de millions. Plus, j'allais dire pire, plus que l'islam et la chrétienté réunis. Réfléchissez bien ça. Faites le compte des siècles qu'on a traversés et les plumes qu'on a laissées. Okay. Et donc ici, il y a une motivation de cela. L'homme est Rubéchem. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux. Mais encore une fois, dans l'existence, les raisons pour lesquelles on est peu nombreux, c'est des raisons objectives qu'on peut mettre en forme. C'est pas que Dieu a décidé qu'on soit peu nombreux. Et pourtant, ça coïncide. Le résultat, c'est que nous sommes peu nombreux. Il n'a pas décidé qu'on soit peu nombreux, puisque la bénédiction donnée à la descendance des patriarches, c'est « Vous serez aussi nombreux que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. » Un jour, il se dévoilera que nous sommes nombreux comme ça. Mais pour le moment, les Juifs visibles, eh bien, ce n'est que le sommet de l'iceberg, comme dirait Heisenberg. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez, vous connaissez cette blague juive. Il y avait quelqu'un qui accusait les juifs de tous les maux de la terre. Alors, à la fin, un juif a réagi. Et le Titanic ? Il dit, quoi le Titanic ? C'est pas Eisenberg qui l'a coulé ? Bon, alors je reviens à vous. Là, il y a un problème. Le petit nombre d'Israël. J'ai reçu une fois une explication qui est très importante. C'est que, avant de faire naître quelqu'un dans le monde, Dieu lui demande s'il accepte le sort qu'il a prévu pour lui. Et on est libre, avant de naître, de refuser ou d'accepter. Ce qui implique que si on a le sort qu'on a, c'est qu'on l'a accepté. Mais avant de naître, bien, et on a oublié. Bon. Ça, c'est un enseignement pour lui-même. Alors, semble-t-il, il y a très peu de créatures qui osent être juives. Parce qu'il faut aussi accepter. C'est clair. Mais on a choisi d'être juif, mais avant la naissance. Après la naissance, pris au piège. Hein? C'est irréversible. Bon. Alors, l'homme est roubéché, Nicholas Amin, ce n'est pas parce que votre plus grand nombre que des nations, Hachak Hashem Bachem, que Dieu a eu désir de vous. Hachak, c'est vous a aimé, mais dans un sens très, très précis. Aidez-moi à traduire en français, Hachak. Désir. Non, je cherche un mot plus ample. Hachak. Le sens me revient en arabe. Hachak fait. En arabe. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça?
Hachak, c'était le péjoratif.
Hachak, c'est péjoratif. De quoi je me mêle? Ça, c'est autre chose. Mais Hachak.
Hein?
Non, ça, c'est péjoratif. Bon, essayez d'imaginer, en français, ça existe mais ça m'échappe. Un mot qui signifie aimer, mais c'est encore beaucoup plus gentil que aimer. C'est la manière dont on aime une fiancée. Avoir heshek. Mais c'est pas le désir grossier.
Tendresse.
Oui, mais comment on dit en français un désir de tendresse? Affection. C'est faible.
Désir de l'âme.
Hein? Oui, mais vous avez compris l'idée en tout cas. Il faudrait un Lamartine pour traduire ça. Peut-être Claudel a trouvé un mot. Chachak Hashem Bachem, Baïpra Bachem, qui vous a choisi.